C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix, qui revient aujourd'hui pour une troisième saison. Je suis heureux de vous retrouver, et pour cette nouvelle année, je serai accompagné d'Axel. Bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 19 septembre, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la fabrication des médicaments. Qu'ils soient là pour soigner des petits maux de tête, pour traiter des pathologies chroniques ou pour soulager des maladies plus graves, nous chercherons à comprendre ce qu'il se passe entre les premières recherches et l'apparition des gélules dans nos armoires à pharmacie.
Et pour en parler, nous serons avec Chloé Raymondin et Damien Gélin, doctorants au laboratoire CERMN de l'université de Caen, et ont participé à la création de la Drugbox, un dispositif de médiation scientifique qui permet de mieux comprendre les différentes étapes de la fabrication des médicaments.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Et on commence avec l'iPhone 12, téléphone de la marque Apple, qui est temporairement interdit à la vente en France.
Oui, c'est l'Agence nationale des fréquences qui a demandé à Apple de ne plus commercialiser ce modèle de smartphone. La raison, les ondes émises seraient trop fortes. L'ANF demande à Apple de corriger ce problème sous 15 jours. Une correction qui peut d'ailleurs intervenir grâce à une simple mise à jour. C'est d'ailleurs ce que compte faire Apple.
Mais alors, est-ce qu'il y a un réel danger pour les utilisateurs de l'iPhone 12?
Non, ce serait exagéré de dire cela. Concrètement, l'iPhone 12 émet 5,7 watts par kilo, alors que la valeur limite à ne pas dépasser selon les normes européennes est de 4 watts par kilo pour un téléphone tenu à la main ou dans la poche. Alors certes, c'est au-dessus, mais selon le ministre du numérique Jean-Noël Barrot, qui s'appuie sur des études scientifiques, ce chiffre est 10 fois inférieur au seuil à partir duquel l'exposition peut avoir un risque sur la santé. Vendredi dernier, deux Russes et une Américaine se sont envolés pour l'ISS.
Et s'il y a un endroit où l'entente est possible entre les Russes et les Américains, c'est bien l'espace. Vendredi dernier, les Russes Oleg Kononenko et Nikolai Tchoub, ainsi que l'Américaine Laurel O'Hara, dont c'est le premier vol spatial, ont décollé de la base kazakh de Baïkonour à bord de la fusée Soyouz pour un voyage de 3 heures direction l'ISS. Ils vont prendre le relais de 3 astronautes, un relais attendu de longue date, puisque leurs collègues sont dans l'ISS depuis plus d'un an, alors que les missions classiques durent en moyenne 6 mois. La raison, l'impact d'une micro-météorite qui a provoqué l'endommagement de leur vaisseau retour.
Ah, ça c'est une sacrée histoire, mais que vont-ils y faire?
Eh bien, ils y mèneront des opérations de maintenance, d'assemblage et diverses expériences scientifiques. En clair, l'enjeu est d'étudier les effets de l'apesanteur sur notre corps et de réaliser des expériences dans ce milieu si particulier où tout n'est que flottement et inertie.
Et cette mission, elle est aussi symbolique, je suppose.
Oui, exactement, et ça fait du bien de voir des Russes et des Américains coopérer pour une fois. Sur la Terre, ce sont deux pays aux relations complexes, voire conflictuelles, si bien que la station spatiale internationale est finalement devenue le dernier lieu d'une collaboration apaisée entre les deux pays. Et c'est un constat malheureux, les 17 objectifs de développement durable établis par l'ONU ne pourront sûrement pas être tenus.
Exactement, c'est la conclusion fataliste dressée à l'occasion de l'Assemblée Générale Annuelle des Nations Unies. Elle devait justement faire un état des lieux de ces objectifs, connus sous l'acronyme ODD, à mi-chemin des 15 ans prévus pour les tenir. Sauf qu'à l'heure actuelle, seuls 15% d'entre eux sont sur une bonne voie de réalisation, 48% ont un retard modéré ou grave, et pas moins de 37% sont en stagnation ou régression. Alors parmi ces 17 ODD, on retrouve le recyclage du papier, du verre et de l'aluminium, la préservation de l'eau ou encore le combat contre le gaspillage de nourriture et le soutien à l'agriculture locale.
Mais alors, à cause de quoi ces objectifs ne sont-ils pas tenus?
Eh bien, l'ONU pointe sans surprise l'inaction des États, mais elle a également dans le viseur le secteur privé qui ne prend pas ses responsabilités. Selon une enquête d'Impact Analytics, seuls 4% des grandes entreprises sont alignées dans leurs pratiques sur l'ensemble des objectifs de développement durable. Jeudi dernier, un chercheur franco-québécois a remporté le Breakthrough Prize, un prix récompensant les avancées majeures.
Ouais, et c'est l'histoire complètement dingue de Michel Sadelin. C'est un immunologiste franco-québécois qui a pris une belle revanche jeudi dernier en prouvant au monde entier que ses recherches allaient dans le bon sens et ont débouché sur une nouvelle forme de thérapie très efficace pour lutter contre certains cancers du sang.
Mais alors pourquoi est-ce que tu nous parles de revanche ?
Eh bien parce que ce chercheur était seul contre tous, la plupart de ses collègues le décourageaient, lui disaient que sa méthode n'était pas la bonne, et il ne croyait pas en son projet. Le problème, c'est qu'à force de ne séduire personne, les bourses de recherche lui échappaient et les étudiants évitaient son laboratoire. Son maître mot, c'est donc l'obstination, d'avoir poursuivi son idée pendant près de 30 ans, celle de sélectionner certaines cellules associées aux défenses immunitaires pour les programmer de telle sorte qu'elles pourront reconnaître les cellules cancéreuses, et après une réinjection par perfusion, les attaquer. Cette belle prouesse lui a donc valu le Breakthrough Prize, presque aussi prestigieux que le prix Nobel, ainsi que les 3 millions de dollars qui vont avec, une belle somme que le chercheur a promis de partager avec tous ceux qui l'ont soutenu dans sa quête, c'est-à-dire pas grand monde. En 2019, selon une étude de Statista, 40% des Français consomment des médicaments tous les jours, qu'ils soient pris en gélule ou en sirop. Ils occupent une place importante dans nos vies et chaque année, ce sont plus d'une quarantaine de nouveaux produits qui sont autorisés sur le marché par l'Agence européenne des médicaments.
Et cette autorisation, elle intervient donc après un long processus en plusieurs étapes. Mais alors, comment se passe la fabrication des médicaments? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui avec nos deux invités, Chloé Raymondin et Damien Gélin. Bonjour. Alors vous êtes tous les deux doctorants au Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie et vous avez également contribué à la création de la Drugbox. C'est un dispositif consacré à la fabrication des médicaments, on aura l'occasion d'y revenir. Mais avant, est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on trouve dans un médicament, qu'est-ce qui le compose ?
Eh bien, ce qui se passe dans un médicament, c'est que vous avez votre substance active, celle qui vraiment va avoir un effet bénéfique sur, pour traiter une pathologie. Et en plus de ce principe actif, ou de cette substance active, vous avez des excipients, donc c'est d'autres éléments qui vont permettre soit d'améliorer l'absorption du médicament, soit de le permettre de le solubiliser dans l'eau, parce que vous savez que le corps humain est constitué d'une grande majorité d'eau. Et potentiellement, on va aussi l'aider à arriver jusqu'à sa cible pour traiter la maladie.
Et on a aussi un côté qui peut, on peut aussi dire que ça peut rajouter un peu de goût. Comme certains médicaments, on a tendance à dire qu'ils n'ont pas bon goût. Bah, ce côté-là peut apporter du goût, comme les arômes d'orange ou des choses comme ça, quoi.
Mmh. Alors, quelle est la première étape de la création d'un médicament? Par quoi est-ce qu'on commence, finalement?
Eh bien, on commence c'est d'abord par les biologistes, parce qu'on traite une, on veut choisir une maladie, mais comment la traiter? C'est les biologistes qui vont trouver des cibles dans notre corps. Imaginez par exemple, vous voulez traiter une maladie bactérienne, il va falloir que les biologistes travaillent sur cette bactérie pour trouver des cibles à l'intérieur de cette bactérie à attaquer. Ensuite, c'est plutôt le travail, on va dire, de ce qui se passe chez nous au niveau de la recherche du médicament. Donc ça va être des chimistes, des pharmaciens qui travaillent ensemble sur la cible donnée et créer de substances actives, des petites molécules notamment chez nous.
Donc une fois que vous avez trouvé la cible, comment est-ce qu'on détermine les ingrédients qui vont devoir constituer le médicament en question pour traiter une pathologie en particulier?
Alors pour faire simple, il y a une petite analogie qui est assez simple, c'est, vous voyez, la cible c'est comme une serrure. Et nous, notre objectif, ça va être de trouver la clé de cette serrure-là. Donc on va étudier cette serrure, voir ça ressemble à une sorte de poche qui a une forme assez qui a une forme un petit peu bizarre, et on va essayer de trouver notre clé qui va épouser cette forme assez bizarre, et on va voir si on a un effet bénéfique lorsqu'on va faire les tests.
Et elle est longue cette première étape, ça prend combien de temps à peu près?
Alors cette première étape, donc la recherche, on va dire, d'une substance active dans un candidat à médicament, ça prend environ 8 à 10 ans si tout se passe bien.
Sur l'ensemble?
Alors ça, c'est pour la partie avant les tests, les essais cliniques, ce que vous connaissez sûrement, et les essais précliniques. Donc, c'est toute une recherche en amont, c'est là où on travaille, où effectivement on va travailler sur cette serrure, cette cible. On va designer ces molécules, les synthétiser, les tester sur du modèle non vivant d'abord, pour voir si on a une interaction entre du coup notre clé et notre serrure. Et après, ben, si ça marche bien, on laisse la main au biologiste pour la suite du procédé. Et toute cette partie-là dure environ 8 à 10 ans.
Donc vous avez parlé de différentes étapes, notamment les tests. Est-ce qu'il y a aussi d'autres étapes qui interviennent dans la fabrication?
Oui, donc là c'était la recherche de la substance active. Une fois qu'on a une substance active qu'on a définie, on va la faire tester d'abord sur des modèles cellulaires. Donc on n'est pas encore sur du vivant, mais on s'y rapproche, un petit peu l'entre-deux. Si ces tests-là permettent de voir un peu la toxicité de notre molécule et si ça reste plutôt efficace. Enfin, si on arrive à passer cette première étape, qui est un bel obstacle déjà, on va passer plutôt sur les essais précliniques. Donc là, on est sur les modèles animaux, et notamment, on commence par les modèles de type rongeur.
Vous avez parlé tout à l'heure de biologistes qui travaillent sur cette fabrication. Quelles sont les autres personnes qui vont être amenées à fabriquer les médicaments? Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui sont mis à contribution?
Oui, bien sûr. Donc, je disais, il y a les chimistes notamment qui vont travailler sur le principe actif en lui-même, la substance active. Les biologistes, eux, et les pharmaciens travaillent ensemble pour faire plutôt la partie médicament, donc enrober ce principe actif pour faire un futur médicament, donc avec les fameux excipients. Et puis, en amont de la recherche, y a comme Damien, hein, qui est plutôt informaticien, va travailler plutôt sur la recherche du principe actif, mais par les voies virtuelles, on va dire.
Voilà, parce que si vous voulez, en fait, on a tout le côté virtuel, parce que dans le monde, on travaille beaucoup, donc tout le monde publie, et toutes ces publications, en fait, se retrouvent sur Internet. Et nous, avec toutes ces informations-là, on va pouvoir déjà faire un pré-traitement sur toutes les molécules qui existent et orienter un peu les recherches pour pouvoir construire un médicament.
Parce qu'on imagine tout de suite la fabrication du médicament dans un labo avec... Au début, c'est vraiment que du virtuel, du numérique.
Il y a une bonne partie de virtuel pour pouvoir simplifier les travaux. Parce que si on demande à un chimiste tout de suite de pouvoir construire une molécule, il va construire ce qu'il pense être bon, mais ce n'est pas forcément le bon chemin qu'on va emprunter. Donc c'est toute la partie informatique qui va permettre avec les ordinateurs et les gros calculs, donc déjà on va gagner beaucoup de temps, parce que du coup tout le travail qui est ici, c'est virtuel, donc déjà ça coûte pas cher, le temps et on gagne du temps, et ça va permettre vraiment de pouvoir cibler certaines familles de molécules et après proposer cette famille-là aux chimistes pour pouvoir les construire derrière.
Et du coup ce principe-là, en fait, ça nous permet de rationaliser notre recherche et pas de se lancer par hasard sur certaines structures chimiques et aller en fait foncer dans un mur potentiellement.
Et j'imagine que le coût de fabrication peut être particulièrement élevé. Est-ce que cela peut avoir un impact dans le développement des médicaments ?
Alors en fait, le fait que le coût soit élevé, c'est pour, on va dire, rembourser tout l'argent qui a été mis dans la recherche. Donc toute cette partie-là de trouver un principe actif, mais ce qui coûte le plus cher, c'est tous les essais cliniques. Et donc tous les enjeux, parce que vous savez, dans les essais cliniques, il y a plusieurs phases. Une phase, les essais cliniques, c'est sur les hommes, on est d'accord ? Une phase où on fait d'abord sur les personnes saines, puis celles qui commencent à être malades, et puis celles où on est vraiment dans le cas de la maladie. Et chaque étape, en fait, doit soulever un dossier avec des financements, et c'est là où ça coûte le plus cher.
Donc c'est vraiment aussi, j'imagine que plus c'est long, plus ça coûte cher.
J'imagine, pour être sûr, je ne sais pas trop.
On parlait tout à l'heure, j'évoquais des différentes formes de médicaments qu'on peut trouver, des gélules, des comprimés, du sirop. Qu'est-ce qui va déterminer la forme du médicament qu'on utilise? Est-ce que ça fait aussi partie du travail de recherche du biologiste ou c'est autre chose?
Alors bien sûr, déjà, dès la conception d'un principe actif et du futur médicament, on réfléchit déjà à savoir si notre molécule sera soluble dans l'eau, ou en tout cas, certains paramètres sont surveillés de très près. Et en plus, forcément, on a une certaine pathologie, donc on va viser plutôt certains organes. Et pour viser certains organes, on a des formes plus adaptées. Imaginons, on veut viser des maux d'estomac, on va essayer plutôt de prendre un comprimé qui va se dissoudre dans l'estomac pour qu'il ait son action uniquement à l'estomac et qu'il ne va pas toucher ailleurs, et donc éviter au maximum les effets indésirables. Donc la forme de médicament aide aussi selon l'organe que l'on cible.
Et donc, comment est-ce que ces derniers, ces médicaments, agissent concrètement dans le corps, du coup ?
Alors ça dépend de votre type de médicament, effectivement. Ouais. Mais imaginons une gélule, c'est facile pour tout le monde. Souvent, vous en prenez souvent. Donc ce qui se passe, c'est que la gélule est dite gastro-résistante. Donc quand vous la avalez, vous l'avez dans votre estomac, elle va survivre, on va dire, au suc digestif, va arriver dans vos intestins. Et au niveau de l'intestin, en fait, il faut savoir que c'est une paroi qui est assez perméable. En fait, c'est là que votre principe actif va pouvoir diffuser et arriver vers votre sang. Et par exemple, si vous avez des maux de tête, vous avez une gélule de paracétamol, le paracétamol va pouvoir aller dans le sang. Votre cerveau est un organe le plus irrigué dans votre corps, donc votre principe actif va aller dans votre cerveau et va vous soulager de la douleur. C'est un peu ce cheminement-là.
Et donc, pour comprendre un peu concrètement la différence, c'est vrai qu'on dit des fois gélule, comprimé, on se dit c'est peut-être la même chose. Est-ce qu'il y a des différences ou même par rapport au sirop ou autre forme, qu'est-ce qui vraiment les différencie ?
Alors, ce qui les différencie, c'est la forme liquide ou solide, déjà, pour commencer.
Et ça a une importance sur l'efficacité, ou c'est juste parce que c'est peut-être plus facile à prendre ?
Alors, ça peut être une importance sur l'efficacité. Si vous traitez un maux de gorge, ça ne sert à rien d'avoir quelque chose de solide. Un sirop, c'est très bien adapté. Mais du coup, comment dire ça ? Oui, après, c'est aussi des questions de physico-chimique. Est-ce que votre principe actif, votre médicament, peut être sous forme solide ? Si, des fois, on a des contraintes liées à la physique qui font que ce n'est pas possible, donc on aura plutôt quelque chose de liquide, comme le sirop.
Mmh. Et alors, avant que le médicament ne soit commercialisé, il existe une phase de test. Vous nous avez un petit peu expliqué comment elle se déroule précisément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail un petit peu pour qu'on comprenne bien le déroulé ?
À la phase de test, dès qu'on a trouvé quelque chose qui fonctionnerait, un principe actif. Alors du coup, chez nous, on les teste, donc on appelle ça in vitro, c'est-à-dire que dans un puits, vous allez mettre votre cible thérapeutique, votre principe actif, une autre substance qui va permettre de dégager de la lumière, qu'on va capter après, et on va voir en fait si on a si la clé rentre bien dans sa serrure. Donc ça, c'est notre premier type de test. Donc, c'est des tests in vitro. Ensuite, comme je vous ai dit, on va faire des tests sur des cellules. Donc là, on n'est plus juste dans notre puits avec de l'eau et notre cible. Là, on a vraiment tout le système de la cellule. Ça, cette partie-là nous permet de voir si notre principe actif peut rentrer au sein de la cellule et faire son effet. Et puis après, ben, quand ça se passe bien, ça dépend en certains tests, mais on peut passer aussi sur un intermédiaire qui s'appelle des organoïdes. Donc c'est des organes, on va dire, faits artificiellement, comme les intestins. Donc ça nous permet un peu de voir le comportement de la molécule au sein d'un organe. Et enfin, bah, on va passer sur les modèles vivants, ce que je disais, les modèles animaux, puis chez l'homme.
Et comment sont choisies les personnes qui participent à ces tests parce que déjà, il y a les animaux. Pourquoi est-ce que tel animal va peut-être plus facilement correspondre à ce que ça pourrait donner sur l'homme ? Pourquoi est-ce qu'on va ensuite choisir telle personne précisément ? Comment est choisi ? Comment on fait le choix ?
Alors sur les animaux, c'est toujours, c'est comme le monde, c'est toujours une question de budget, on va dire. Le modèle animal, d'abord c'est le rongeur, c'est parce qu'il est assez facile à gérer en fait et à manipuler. Et puis après, on passe aux des modèles un peu plus, on va dire plus proches de l'homme, avant de passer à l'homme. Et l'homme, au début, ben, pour la phase 1, ce sont des personnes saines pour déterminer justement les effets indésirables, cette chose-là, avec du coup le placebo et votre médicament. Donc là, en général, ce sont des volontaires, parce que ces personnes-là peuvent être payées justement pour faire ces tests-là et permettre à un programme de continuer ainsi. Et ensuite, ça sera les malades plutôt. Mmh. Après, ça dépend. Ça, c'est généralement comme ça, mais on va dire, si on va à une thérapie anticancéreuse, on ne va pas utiliser des personnes saines. Parce que vous connaissez la radiothérapie, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Et là, on ne va pas risquer sur des personnes saines de faire des tests.
Oui, il y a quand même la notion de risque derrière.
Bien sûr.
C'est, en général, la plupart des tests sont faits via des médicaments qui ne comportent pas de risque, où il y a quand même beaucoup de cas où on est obligé de faire sur des personnes.
Ces risques-là, on peut les limiter déjà sur les modèles animaux. On les définit au préalable, justement. Ça sert à ça, les modèles animaux, de ne pas se lancer directement chez l'homme et d'avoir des problèmes éthiques.
Et ça se mesure sur combien de temps, sur la durée ? Parce qu'on peut imaginer des effets indésirables qui peuvent avoir lieu pendant plusieurs années, mais à partir de quand on se dit c'est bon, il n'y a pas d'effet indésirable, on peut y aller.
Alors j'ai déjà vu sur certains articles qu'il y a un suivi notamment de l'animal sur 24 heures, 48 heures, 72 heures, et voire même jusqu'à 5 jours, il me semble, un truc comme ça. Je pense qu'il y a il doit y avoir des durées plus longues, mais sur certains articles que j'ai déjà vus, ça se suit sur plusieurs jours.
On continue de parler de la fabrication des médicaments avec vous, Chloé Raymondin et Damien Gélin. Mais avant, on va faire une petite pause musicale et écouter Drum de Young Father. A tout de suite dans C'est pas faux.
Into shade, turning matter into clay. I fall the mess, no superstition. I am the vision, young black gifted with a mission. Yeah, 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 yeah. Got all the wishes like Aloysius, but I'm Aloysius. Master Koi straight from the voice. So I'ma get me some, so I'ma get me some. I never claimed to be no role model. Some, I never claimed to be no role model. But I'm a man, now I'm done. Someone, I'm on that.
The Young Father, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Aujourd'hui, nous sommes avec Chloé Raymondin et Damien Gélin, doctorants aux sciences d'études de recherche sur le médicament en Normandie pour parler de la fabrication des médicaments.
Alors, on donnait tout à l'heure le chiffre d'environ 40 nouveaux médicaments par an. On a du mal à se rendre compte si c'est beaucoup ou pas.
Eh bien, écoutez, c'est peut-être beaucoup, mais en fait, toute la conception qu'il y a derrière, c'est pas si énorme que ça, parce qu'il y a beaucoup de... on va dire d'échecs thérapeutiques. Donc pour vous donner un petit ordre d'exemple, imaginons du début de la fabrication, pour 10 000 molécules synthétisées, il n'y en aura peut-être qu'une seule qui arrivera sur le marché. Donc il y a quand même un sacré tri.
Et même, je suppose qu'au fur et à mesure, il y en a qui ne vont pas passer les tests précliniques, d'autres, et ça écume au
oui,
fur et à
mesure. Oui, tout à fait. Ouais. Exactement, c'est pour ça.
Et aujourd'hui, est-ce que les nouveaux médicaments fabriqués traitent des nouvelles maladies ou est-ce qu'ils visent à remplacer des médicaments déjà existants auparavant ?
Alors, il y en a certains forcément pour des questions de budget et de rentabilité. Vous imaginez sur le marché, il y a beaucoup d'anti-hypertenseurs qui sont développés parce que ça marche bien et qu'on est dans un pays riche, on va dire. Mais bien sûr, il y a de nouvelles stratégies, notamment pour les maladies où vous avez de la résistance. Notamment, je pense aux infections bactériennes, etc. Ou même sur le cancer, vous avez certaines cellules qui créent des résistances et donc les médicaments actuels ne sont plus si efficaces que ça. Donc la recherche continue à ce propos.
Oui, quand un médicament est trouvé, il y a toujours une volonté derrière d'améliorer pour qu'il y ait de moins en moins soit d'effets secondaires ou même un confort à la prise du médicament.
Oui, bien sûr, effectivement, oui. Ah bah, de toute façon, et puis il n'y aura pas un monopole d'une personne, bien sûr. Après, le brevet typiquement d'un médicament tombe et puis d'autres entreprises prennent la propriété intellectuelle et créent leur générique, justement.
Et vous, justement, donc, en tant que chercheur, on a du mal à se rendre compte, mais où s'arrête votre collaboration dans le processus de fabrication ?
Comme je disais, Damien et moi, on travaille au tout début de la recherche très 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 fondamentale du médicament. Et là où ça s'arrête, c'est lorsqu'on va donner aux biologistes pour tester sur les cellules et puis sur les modèles vivants.
Et même vous, Damien Gélin, je suppose que vous, vu que vous êtes sur la toute première partie, sur le côté plus informatique, j'ai envie de dire presque, quand vous avez terminé votre travail, il reste encore des années avant que le médicament sur lequel vous ayez travaillé... D'ailleurs, vous êtes plutôt jeune, est-ce qu'il y a déjà des médicaments sur lesquels vous avez travaillé qui sont...
Alors en fait, moi c'est un peu plus particulier parce que je ne travaille pas forcément sur un médicament. Moi, mon projet, c'est essayer de créer des méthodes pour pouvoir faciliter la recherche à l'intérieur de toutes ces bases de données. Donc du coup, c'est là toute la complexité de mon travail parce que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas vraiment pour un médicament précis.
D'accord.
C'est vraiment essayer de simplifier la recherche. Et c'est pour ça que moi, mon travail, en fait, s'arrête encore plus tôt que Chloé. Mmh. Elle s'arrête au moment des tests. Mais moi, je vais m'arrêter au moment où je vais trouver une molécule intéressante et je vais la filer à Chloé, par exemple, et elle va continuer à travailler dessus. Mais je peux revenir au moment où, si elles n'arrivent pas à trouver quelque chose qui va fonctionner, on va pouvoir retravailler encore une fois virtuellement pour essayer d'améliorer la molécule et comme ça, ils vont essayer d'en refaire une nouvelle.
Mmh.
Et dans votre centre, le CERMN, le Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie, vous travaillez donc sur quel type de traitement en particulier ?
On a trois axes de recherche plutôt. Un pôle sur la recherche contre la maladie d'Alzheimer, un autre qui travaille plutôt sur le cancer de l'ovaire, et puis on a tout récemment un programme sur la recherche contre la tuberculose. Parce que je ne sais pas si vous le savez, la tuberculose revient de plus en plus, justement, avec les personnes qui se font de moins en moins vacciner. Donc ça redevient un problème sanitaire.
Et les scientifiques qui travaillent sur l'élaboration de médicaments, ils sont spécialement sur un type de traitement en particulier ou ils peuvent être amenés à s'occuper de traitements très divers ? Vous, par exemple, parliez d'Alzheimer. Est-ce que dans le laboratoire, un jour, si on se met à traiter des maladies intestinales, par exemple, ça change complètement la façon de travailler ou ça reste à peu près pareil ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un laboratoire, en fait, on a notre champ de recherche et aussi nos propres stratégies, en fait, qu'on va essayer d'appliquer sur un domaine particulier. Je pense à Alzheimer. On fait beaucoup de prodrogues, en fait. Donc les prodrogues, c'est-à-dire que quand on l'ingère tout de suite, on n'aura pas d'effet, mais votre prodrogue, une fois qu'elle sera dans votre corps humain, sera coupée par des enzymes, des petites protéines dans votre corps, et va devenir actif et donc elle va avoir son effet. Donc ça, c'est d'une stratégie, et notamment pour le cancer, on a vraiment un champ très très restreint, c'est la stratégie dite PROTACT. En fait, on va, grâce à une grosse molécule, harponner la cible dans les cellules cancéreuses, harponner, on va dire, vos éboueurs dans votre cible, dans votre cellule, et puis les mettre en relation. Et une fois que les éboueurs ont rencontré la cible, ils vont l'évacuer, la mettre à la décharge. Et on va pouvoir avoir une thérapie anticancéreuse. C'est des stratégies, on va dire, propres à chacun, à chaque laboratoire. Oui.
Et du coup, quels sont les différents domaines scientifiques qui sont convoqués, qui sont mobilisés dans la fabrication de ces médicaments ? Vous avez parlé de la biologie, de la chimie, je suppose. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors oui,
l'informatique, les pharmaciens, on a l'informatique, oui, on a aussi un pôle pour créer les médicaments, comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs formes, et là vraiment on a des spécialistes, donc c'est les galénistes, et eux leur spécialité vraiment c'est de pouvoir prendre le principe actif et les excipients et de créer vraiment la forme de médicament qui sera adaptée à ça. Donc c'est pour ça vraiment ça regroupe plusieurs rôles différents au même laboratoire.
Au niveau plus sanitaire, est-ce qu'il y a des règles à suivre dans la fabrication de médicaments ? Où je pense principalement à la phase de test qui doit être beaucoup plus scrupuleuse. Est-ce qu'il y a ce genre de choses ?
Alors oui, du coup, à notre échelle, en fait, quand on va délivrer une molécule, il faut être sûr qu'on a la bonne molécule. Donc on a tout un pack d'analyses à faire et à montrer. Ensuite, il faut qu'on ait une certaine pureté. Donc on ne donne pas des molécules en dessous de 95% de pureté. Et enfin, pour la partie plutôt après, pour faire la fabrication du médicament, il faut veiller à un mode stérile, bien sûr. Et globalement, à notre étape, c'est à peu près tout.
Et du point de vue légal, comment est-ce qu'elle est encadrée, cette fabrication du médicament ? Est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus ou c'est un peu hors de votre...
Alors, c'est un peu hors. Alors, comment elle est faite ? Je ne sais pas trop si ça répondra à votre question, mais chez nous, en fait, on a des programmes de recherche. Donc, on est financé, notamment en thèse, on est financé pendant 3 ans sur un projet où on doit avancer... et montrer certains résultats, bien sûr. Et puis après, ce n'est plus trop de notre ressort, effectivement.
Alors ça sera sûrement de votre ressort, parce qu'on en parlait en introduction. Vous avez travaillé sur la mise en place du projet Drugbox pour faire comprendre les différentes étapes de cette fabrication de médicaments. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qu'est la Drugbox ?
Bah oui, on peut en parler plus. En fait, c'est vraiment un projet qu'on a voulu mettre en place parce qu'au sein de notre laboratoire, on n'a pas grand-chose pour pouvoir montrer au public qu'est-ce qu'on fait au sein de notre laboratoire. Par exemple, moi, vraiment, en tant qu'informaticien, quand je suis arrivé, j'y connaissais rien. Donc grâce à ça, ce projet, ça permet aussi de mieux comprendre ce qu'on fait. Donc c'est pour ça qu'on a voulu essayer de représenter les différentes étapes de la conception du médicament. Donc c'est pour ça qu'on a séparé ce projet Drugbox en 3 parties, si vous voulez. Donc on a une première partie qui va être tout le pôle informatique. Donc pour ça, on s'est amusé à faire une petite application qui va être une sorte de tangramme qui va représenter la cible et à nous d'essayer de construire le puzzle qui va pouvoir rentrer dans cette cible pour pouvoir faire notre molécule. Et après, on a la deuxième partie qui va être principalement la chimie et la biologie. Donc ici, les gens vont essayer avec des pièces qu'on a construites en imprimante 3D, ils vont essayer de les assembler par rapport au tangramme qu'ils ont créé avant pour pouvoir faire la molécule physiquement. Et après, il y aura des petits tests pour pouvoir montrer oui ou non si la molécule va fonctionner biologiquement. Et après, on a une dernière étape ici, ça va être... là, c'est l'étape qu'on s'amuse avec qu'on s'amuse beaucoup avec Chloé, parce que c'est la partie où on arrive à poser des questions au public et essayer de les emmener sur comprendre quelle forme de médicament il va falloir prendre par rapport à la maladie qu'on souhaite. Donc, c'est à peu près le projet qu'on a voulu faire et qu'on a réussi à faire, et on est en train de s'amuser avec, et on voit que les gens comprennent de mieux en mieux ce qu'on fait au sein de notre laboratoire avec ce projet.
C'est ça. Et du coup, pour compléter voilà, sur cette dernière partie de Drugbox, en fait, on a une sorte de jeu de cartes qui ressemble à un qui est, pour faire simple pour vous, avec plein d'informations, et les gens vont éliminer au fur et à mesure les cartes pour trouver la forme la plus adéquate, si possible.
Mais donc, globalement, le but principal, c'est une sorte de recréation à échelle plus miniature de toutes les étapes qu'on
tout à fait, dans la fabrication. Voilà, et tout ce que l'on fait chez nous au sein du laboratoire, oui, tout à fait.
Et ce projet, donc, il s'adresse à qui ? Est-ce qu'il s'adresse à des étudiants, à des chercheurs, à n'importe qui ne serait pas forcément spécialiste du domaine ou...
Tout à fait, exactement. Ça s'adresse grandement au grand public, mais on a déjà fait des tests sur nos stagiaires chez nous. Les plus confirmés aussi peuvent l'essayer. Franchement, c'est accessible quasiment à tous. On l'a déjà utilisé pour la première fois à la fête de la science de l'an dernier. Et on a remarqué qu'il faut quand même, on dirait, à partir de 6-8 ans, quand les enfants commencent à être un peu plus posés pour réfléchir, là, c'est intéressant.
Oui. Parce que c'est facile de vulgariser des sujets comme les vôtres ou c'est quand même complexe ?
C'est assez complexe parce que c'est quelque chose qui est pas très visuel en soi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cet atelier pour pouvoir rendre la science au sein de notre laboratoire palpable. Parce que comme ça, les gens arrivent mieux à s'identifier si eux-mêmes réalisent les actions que nous on fait, en plus simple bien sûr. Mais...
Et au-delà de la vulgarisation sur les médicaments, donc est-ce qu'il y a est-ce que vous, par exemple, vous procédez à une vulgarisation du métier de chercheur ? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible, qui est comparable ou...
Oui, tout à fait, oui. On fait, de toute façon, à chaque atelier, on dit, là, vous êtes vraiment à la place d'un chimiste qui va synthétiser la molécule, à la place d'un biologiste qui va faire les tests. Oui, tout à fait.
Et ce genre de projet, c'est aussi peut-être un moyen de lutter contre une certaine défiance qu'on a pu avoir envers les médicaments ou les traitements médicaux en général, comme on a pu l'observer pendant la crise sanitaire. Savoir comment c'est fait, c'est aussi la clé pour permettre aux gens d'avoir confiance.
Ouais, c'est tout l'objectif du projet, c'est vraiment la partie où les gens ont moins d'informations dessus. Et c'est pour ça que nous, on aime bien venir présenter notre projet et apporter un peu de débat pour essayer de leur faire comprendre tout l'intérêt de notre partie.
Et rassurer aussi du fait que ce soit sur un temps très long,
oui.
Ça peut parfois faire peur.
Oui, tout à fait. On a eu des questions très pertinentes. Par exemple, on a eu une question là, ce week-end-là pour demander c'est quoi la différence entre un vaccin et un médicament. Voilà, les personnes qui sont désinformées ou alors mal informées, on est là justement pour leur dire que c'est pas sorcier. C'est sûr que c'est un processus très très long, mais que c'est rationalisé, contrôlé et que vous pouvez avoir entièrement confiance.
Et alors, vous avez reçu en 2022 le prix du musée Schlumberger, qui récompense donc des projets de recherche scientifique. Est-ce que ça vous a permis de mieux mettre en avant justement ce projet de Drugbox que vous avez porté ? Ça vous a permis d'avoir peut-être une plus grande visibilité,
C'est justement le point de départ en fait de la Drugbox. On a candidaté justement au concours tête chercheuse par le Dôme parce que justement on n'avait rien pour montrer au grand public à part des posters qui nous présentaient justement les choses réelles mais pas simplifiées. Donc on avait proposé ce projet-là. Puis du coup, on a eu le titre et grâce à ce prix-là, on a pu construire, on construit toujours d'ailleurs, la Drugbox. Et voilà, et donc depuis 2022, nous avons cet outil-là qui nous sert très très souvent.
Vous construisez toujours, ça veut dire que la forme du début n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, vous la faites évoluer au fur et à mesure du temps.
C'est ça, parce qu'à chaque fois, on va la tester, on a des nouvelles versions, on dit « Ah oui, là, ça serait... » À chaque fois qu'on anime notre Drugbox, on voit « Ah, il nous manque une petite partie ici, ça serait bien qu'on rajoute ça, ainsi de suite. » Et là, avec ce qui s'est passé ce week-end, on a encore des nouvelles idées, donc on va continuer à améliorer notre atelier. Quoi.
Il s'est passé quoi ce week-end ?
On avait le château, on était au château de... C'était quoi déjà le nom ?
De Crèvecœur en Auge. Pour les journées du patrimoine.
Et donc du coup, là, on n'a pas encore vraiment notre Drugbox finale. Donc c'est pour ça, là, on a testé, on a vu des résultats qui étaient intéressants. On va essayer d'apporter ce qu'on a vu ce week-end pour améliorer notre application. Quoi.
Et donc, est-ce que vous comptez pérenniser ce projet de Drogbox à l'avenir? Est-ce que vous comptez, est-ce que la Drogbox continuera à muter et puis à être toujours présente pour expliquer à différents publics votre métier, vos...
Oui.
On espère.
Alors,
ouais.
Oui, on espère. Alors, figurez-vous que pour le prix, du coup, on était une petite équipe et cette petite équipe, ben, force va partir du laboratoire. Donc, heureusement pour nous, on a l'un des membres de L'Oréa qui reste au laboratoire et qu'on va confier notre projet. On va faire en sorte qu'on ait la version quasiment aboutie avant notre départ, mais bien sûr que ça sera réutilisé parce que le laboratoire a vraiment cœur à présenter ses recherches, notamment à la Fête de la Science et d'autres événements comme. On avait fait Écoulisciences aussi, ouais. Donc on voyait beaucoup de lycéens, de collégiens pour présenter nos recherches aussi.
Et donc on vous souhaite une pérennisation de la Drogbox. Merci beaucoup Cléo et Raymondin et Damien Gélin d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes tous les deux doctorants au Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie, rattaché à l'Université de Caen. Bonne journée à vous.
Merci.
Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. Et on commence cet agenda avec la rentrée du Dôme qui organise vendredi une formation consacrée aux bases de la médiation scientifique. Cette dernière s'adresse à celles et ceux qui souhaitent mieux vulgariser, je vous vois réagir, évidemment ça vous concerne, et communiquer sur leurs travaux de recherche et transmettre leurs connaissances à tout type de public. La journée se déroulera de 9h à 17h30. On reste au Dôme avec ce samedi à 14h un atelier de recyclage du plastique. Pendant 2 heures, vous pourrez découvrir la pratique, comment recycler un plastique de manière hyper locale au sein du Fab Lab et ainsi savoir identifier, trier, broyer et refabriquer de la matière. Pour plus d'infos et pour vous inscrire à ces deux événements, attention, les places sont limitées, rendez-vous sur le site ledôme.info.
Où en est-on dans la lutte contre le réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire et comment la situation pourrait évoluer dans les années à venir? Vous allez pouvoir avoir les réponses à ces questions jeudi prochain à l'Université de Caen en échangeant avec Françoise Vimeux, une climatologue spécialiste de l'étude de la variabilité et des processus climatiques. Elle nous aidera à y voir plus clair et à avoir une vision globale du phénomène. La conférence aura lieu le jeudi 21 septembre prochain à 14h dans l'amphi 43 du bâtiment Sciences 3 du Campus 2. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles bien sûr. Et puis toujours à l'Université de Caen, vous avez rendez-vous ce soir avec 3 chercheuses dans le domaine de l'environnement pour un temps d'échange portant sur les algues vertes, juste après la projection du film du même nom qui met en lumière le scandale lié à cette espèce marine toxique. Dans le film, la journaliste Inès Leroux enquête sur ce phénomène et découvre la chape de plomb et le silence qui étouffe ce désastre écologique et social. Un film qui s'inscrit dans la semaine du développement durable de l'université et qui est à voir ce soir à 20h à l'Amphidor. C'est seulement 2€ pour les étudiants.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Johan pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.